J'aperçois la main verte d'Alain Baraton à 8h moins le quart. Bonjour Alain.
Et son sourire, bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Vous êtes très vexé que Bernadette Chamenaz parle de Brad Pitt devant vous.
C'est un peu vrai parce qu'elle m'a regardé avec une sorte de défiance, voyez-vous.
Alain Baraton, il est beaucoup question en ce moment de virus.
Et oui, on pense bien sûr au coronavirus, mais un autre virus est lui aussi très inquiétant. Non pas pour les hommes, mais pour les poivrons, piments et tomates. Et si cela peut faire sourire, la situation est préoccupante.
Et les scientifiques l'ont baptisé Tomato Brown Rugose Fruit Virus.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié un communiqué et s'inquiète, je cite, d'un risque élevé d'introduction et de dissémination du virus avec un impact potentiel conséquent sur les cultures, tant pour les filières professionnelles que pour les productions familiales, qui représentent bien sûr des volumes significatifs. Alors c'est en 2014 que ce virus a été identifié au Moyen-Orient et il ne cesse depuis de progresser dans le monde. La France est encore préservée, mais pour combien de temps? Le Royaume-Uni, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas sont déjà contaminés.
Et comment sait-on si un pied de tomate est touché par ce virus?
Les symptômes sont très visibles. Les feuilles se décolorent et virent au jaune. Les fruits sont plus petits, moins nombreux et surtout déformés. Leur peau est rugueuse, ce qui signifie que la tomate ne peut plus être vendue et devient difficilement consommable. Il est important de préciser que le virus n'est dangereux ni pour les hommes, ni pour nos amis les bêtes.
Et comment se transmet ce virus de la tomate?
C'est bien là le problème, par un simple contact avec les plantes, leurs fruits et aussi les semences. Le danger avec ce virus est qu'il peut conserver un pouvoir de nuisance pendant des mois dans la terre, sur les outils et même sur les vêtements.
Alors les solutions, elles sont de quel ordre?
De la prévention, car il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Les autorités françaises ont bien évidemment été très vigilantes et vérifient que toutes les tomates introduites dans notre pays soient indemnes. Si un foyer de contamination chez un producteur français était découvert, la culture serait, c'est la seule chose à faire, immédiatement détruite, comme ce fut d'ailleurs le cas en Allemagne et aux États-Unis, et cela a donné de très bons résultats. Ailleurs, c'est parfois la catastrophe, comme en Jordanie, où il a fallu brûler la quasi-totalité des pieds de tomates.
Est-ce que le jardinier amateur est concerné par ce virus de la tomate?
Oui, car il se doit lui aussi d'être vigilant. Face à des pieds de tomates qui ressemblent à ce que je viens d'indiquer, il faut les détruire et sans attendre le signal aux services compétents. S'il n'y a aucune raison de s'affoler, il faut être prudent et le cas échéant, savoir prendre la bonne décision. Et j'en profite également, c'est rare, mais beaucoup de jardiniers amateurs aiment bien les petites graines qui viennent un peu de partout dans le monde. Faites attention aux achats de graines sur internet, qu'elles ne viennent pas justement de production infectée. Il faut que cette maladie, ce virus, reste en dehors de l'hexagone.
Allez, vos réponses et vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter. Marie-Claude, par exemple, nous parle de son chêne. Âgé de 130 ans, en limite de propriété, il doit subir tous les 3 ans une taille raisonnée. La prochaine taille est prévue début mars, mais est-ce que ce n'est pas trop tard au vu des températures?
J'aime bien le terme de taille raisonnée, même s'il n'y a pas vraiment de taille raisonnée pour un chêne de 130 ans. Un chêne de centenaire a besoin de développer sa ramure, mais en le faisant tous les 3 ans, on minimise les conséquences, donc c'est déjà très bien. Effectivement, le réchauffement climatique, les saisons qui n'en sont plus, peuvent créer des réflexions. Mais déjà, ce n'est pas parce que janvier et février semblent être doux que mars et avril le sera. Donc non, ce n'est pas trop tard. Mais surtout, quand on a un chêne de 130 ans, qu'il faut pour diverses raisons le tailler, il faut surtout le faire à une date régulière, ne pas espacer la taille pour éviter le traumatisme. Donc on maintient, mars n'est pas trop tard.
Allez, on reste dans la taille des arbres avec Didier, qui est lui un magnifique saule pleureur, dit-il, avec une ramure d'une vingtaine de diamètres, et nous souhaitons le faire tailler à 10 mètres seulement pour lui éviter de s'ouvrir en cas de tempête. Votre avis, il vous demande votre avis sur cette taille à venir.
Souvenez-vous, le 26 décembre 1999...
Ah ben, vous en savez quelque chose à Versailles.
Eh bien, partout en France, on a connu des arbres qui se sont déracinés, qui ont été brisés, cassés par la force du vent. Les scientifiques qui ont été consultés ont expliqué la chose suivante. Un arbre produit des feuilles pour capter au maximum la lumière. Quand on réduit le nombre de feuilles, quand on le taille, que fait le végétal? Il produit des feuilles légèrement plus grosses. Ce qui veut dire que, si on réduisait l'ampleur de ce saule pleureur, les feuilles, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, seraient légèrement plus grandes. Donc la prise au vent serait pratiquement la même. Mais j'affirme que réduire un saule pleureur de 15 à 10 mètres est le condamner à mort.
Bien.
Eh
bien
ah, c'est, et là, c'est je l'affirme dit. Catégoriquement. Bon. Un saule pleureur est un végétal qui peut de temps en temps se tailler, mais le réduire d'un tiers directement, on va tuer ce végétal qui apparemment est superbe. Le vent passe à travers les branches. Profitez-en peut-être, je parle à ceux qui possèdent ce végétal, en admettant qu'on puisse posséder un arbre, on n'en est finalement que conservateur. Eh bien, peut-être de couper le bois mort qui peut faire écran aux branches, mais surtout ne le coupez pas. Regardez-le, aimez-le, laissez-le intact.
Une fidèle auditrice, Madame Gorlier, se présente ainsi pour parler de son camélia qui mesure 1,50 m. Il ne fait ni fleurs ni boutons. Il est dans un coin collé à un chèvrefeuille, protégé par un cerisier qui est au-dessus de lui. Et elle vous demande, Alain Baraton, si elle doit changer de place son camélia, même si elle sait que vous n'aimez pas ça.
Et elle précise dans sa question que ses feuilles sont parfaitement vertes, ce qui prouve que ce végétal a besoin tout simplement de vivre. Il a besoin d'air, il a besoin de lumière. Ce n'est pas parce qu'une plante supporte les situations mi-ombrées qu'il apprécie autant de végétaux. Il a un cerisier au-dessus de la tête, vous imaginez un petit peu la situation.
Mais il va manger des cerises.
Donc il est suffisamment heureux pour produire des feuilles, mais il n'a pas suffisamment de force, effectivement, pour, fleurir. Donc oui, il faut le déplacer, mais en prenant quelques règles, en le déplaçant en meute à la fin du printemps. Ce n'est pas une simple opération, mais oui, il faut le déplacer.
Allez, en quelques secondes, puis-je mettre les cendres de la cheminée au pied des plantes? Et si oui, quelles plantes de préférence?
Calcium, potasse, magnésium, etc. C'est très bon pour les fleurs et les fruitiers, à éviter de les mettre au pied des plantes de terre de bruyère. Elle n'aime pas tellement.
Eh bien, c'est dit. Un dernier conseil pour la route, j'allais dire, c'est une balade.
Non, pas du tout.
J'étais
il y a deux jours avec Patricia aux grandes serres du Jardin des Plantes à Paris pour l'exposition.
Patricia, pas moi. Hein.
Mais si, bien sûr. L'exposition Mai 1001 orchidées. Vous avez beaucoup apprécié à juste titre. C'est merveilleux. Une très belle collection sur les orchidées. Ouais. Jardin des Plantes, et c'est jusqu'au 2 mars.
Est-ce qu'il y avait une orchidée noire, cette fameuse orchidée noire?
Bien sûr, il y avait toutes les orchidées possibles. Des milliers, c'était super, et vous me l'avez dit.
Merci Alain Baraton, c'est du pipeau tout ça évidemment. Merci Alain Baraton et à demain.